c'est vrai qu'il y a un double standard. C'est vrai que le français parfois peine à s'imposer. Puis c'est justement pourquoi j'ai présenté une réforme par en sorte de modifier la loi sur les langues officielles, parce qu'elle a 50 ans. Puis on doit renforcer la protection du français, autant au sein de la fonction publique, mais aussi à travers le pays.
Eh bien voilà, vous venez d'entendre la ministre au développement économique qui est responsable des langues officielles au pays, Mme Mélanie Joly, la ministre. C'était en entrevue ce matin avec Louis Champagne. Mais on va continuer avec ça parce que la semaine dernière, on voulait parler à Tasha Carradine qui s'était portée volontaire pour des raisons X, Y, Z. On a été obligé pour des raisons techniques de reporter, mais elle est avec nous ce matin et on va parler de ce phénomène-là, doublé évidemment du phénomène de la gouverneure générale qui devient presque le symptôme d'une problématique beaucoup plus profonde, c'est-à-dire le bilinguisme chez nous. Est-ce que vous croyez véritablement qu'un francophone pourrait être nommé unilingue francophone comme gouverneur général du Canada? Impossible. Richard Caridan, bonjour.
Bonjour, Jean-Luc.
Dites-moi, comment réagit le Canada anglais, commençons par là, avec la nomination de Mme Simon, que nous, on accepte parce qu'on ne peut pas questionner ses compétences de toute nature, mais son manque de français, ça, ici, ça nous chatouille. Le Canada anglais se fiche pas mal du bilinguisme, oui.
Ben, je dirais que la réponse à sa nomination était largement positive. L'accent, c'était vraiment sur le fait qu'elle était d'héritage autochtone.
Exact.
Et que c'est la première fois qu'une personne d'héritage autochtone accède à ce poste-là. Il y a des chroniqueurs qui ont écrit le contraire, notamment Barbara Kay du National Post, Andrew Coyne du Globe and Mail. Les deux ont suggéré que pour un poste public comme la sienne, elle devrait être capable de communiquer dans les deux langues officielles du Canada parce que c'est à ces deux auditoires-là qu'elle s'adresse primordialement. Mais c'était la minorité. Moi, personnellement, j'ai écrit sur le sujet, j'ai dit que je trouve ça excellent, que c'est une personne, Mary Simon, est extrêmement qualifiée, mais aussi qui a cet héritage autochtone, mais qu'elle doit apprendre le français. Elle a dit, elle s'engage à le faire, qui pour moi démontre que c'est toujours une obligation du poste. Espérons qu'elle réussisse à être assez bilingue pour remplir ses fonctions. Sinon, si elle ne l'est pas, ça c'est un problème, oui, mais elle devrait être donnée la chance de faire les efforts.
On s'entend là-dessus. Est-ce que vous pensez que le contraire aurait pu être pensable de la part d'un politicien pour sa propre survie politique que de nommer un francophone gouverneur général sans qu'il ne possède aucune notion d'anglais?
C'est une question à laquelle j'ai pas énormément réfléchi, mais j'aimerais penser que oui, que la personne dirait la même chose, que je vais me mettre au travail, puis je vais apprendre l'anglais, mais je t'avoue que probablement non. Je pense que dans ce cas-ci, c'est une question que Andrew Coyne a écrit là-dessus, il a dit, c'est le pool de gens, le groupe de gens dans lequel le gouvernement peut puiser pour des nominations. S'il veut chercher quelqu'un qui est autochtone ou d'héritage autochtone, est-ce qu'il y a beaucoup d'autochtones qui sont fonctionnellement bilingues?
Peut-être moins.
Mais comme vous dites, s'il y avait quelqu'un qui était francophone autochtone, est-ce que cette personne-là aurait été choisie? J'aimerais penser que oui, mais honnêtement, je ne sais pas. Parce que il y a élections qui s'en viennent aussi. Alors, je pense que ce n'est pas un accident que cette nomination tombe dans le moment où elle tombe.
Non, c'est plutôt par sa dimension d'être des Premières Nations que de savoir si elle est bilingue ou non.
Oui, et je pense que c'est pour cette raison qu'il a été nommé. Puis aussi, il fallait nommer quelqu'un si M. Trudeau va aller aux urnes.
Exact. Dites-moi, bon, laissons de côté la gouverneure générale et parlons plutôt de la fonction publique qui, elle, est un service direct à la population canadienne. Et il n'y a pas beaucoup d'utilisation du fait français. C'est une illusion à Ottawa, ça.
Ben oui, j'ai lu le reportage qui est sorti, qui vraiment fait, je pense, état d'une situation assez déprimante, parce que ce qu'il voit, c'est qu'il reporte, c'est qu'il y a beaucoup d'incidents où des francophones dans la fonction publique hésitent de parler le français s'ils sont en situation minoritaire en réunion, par exemple, ou dans leur travail quotidien. Et que c'est impossible que ce soit une situation véritablement bilingue, qu'on fait défaut à l'anglais dans beaucoup de situations. Et ça va à l'encontre de l'esprit de la loi sur les langues officielles qui demande que la fonction publique soit capable de desservir la population dans les deux langues. Alors, ça ne devrait pas être le cas. Je pense que le bilinguisme, on devrait faire l'accent là-dessus. Mais encore, ce que ça fait, c'est que ça diminue le nombre de personnes qui peuvent accéder à des postes. Et pour de raisons politiques et autres, des gens sont nommés à ces postes-là, malgré le fait que peut-être ils n'ont pas exactement la bonne compétence en trop fréquemment le français.
Mais entre vous et moi, c'est l'anglais. Et ce que j'ai trouvé le plus beau, c'est la réponse d'un monsieur Barrière qui a travaillé au milieu carcéral dans la direction et qui dit « Au Canada, c'est l'anglais avec de la traduction française. Mm. » Autrement dit, la réalité, c'est que le Canada, c'est un Canada anglais dont les francophones sont la plus importante minorité à ce jour.
Oui, mais ce que ça ignore, c'est que c'est la question des peuples fondateurs. Et c'est ça la grande question qui maintenant est sujet à discussion, je dirais, parce que le fait autochtone s'affirme de plus en plus. Il y a beaucoup de gens qui déplorent le colonialisme, dont les Québécois aussi se sont plaints depuis des décennies, mais des siècles. Pour eux, c'est le colonialisme anglophone. Et pour les Autochtones, c'est le colonialisme européen tout court. Alors, ça comprend tout le monde. Alors, ça change la dynamique maintenant, cette conversation. Et ça fait qu'il y a certains discours qui disent, des gens qui disent, on ne veut pas avoir de deux peuples fondateurs. C'est vraiment les Autochtones devraient être sur le même pied d'égalité. Si on fait ça, ça change aussi l'importance à la fois de l'anglais et du français, mais probablement l'effet, c'est plus grave sur le français parce que c'est une langue minoritaire pour commencer au Canada, oui.
Mais c'est une langue fondatrice de ce pays.
Je sais, et c'est ça pour moi. Je pense que l'histoire du peuple fondateur de notre pays, oui, des deux peuples fondateurs, c'est partie de notre histoire. On ne peut pas l'écarter et dire simplement non, on est tous sur la même ligne de pensée. Il y a beaucoup d'immigrants qui sont venus ici après les anglophones et les francophones, qui ont apporté leur langue, leur culture, etc., mais la formation du pays, quand elle a été formée, fondée, c'était les deux peuples fondateurs, et je pense que c'est important de préserver cette notion-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas reconnaître d'autres faits, mais ce fait-là demeure.
C'est intéressant parce que vous êtes une femme qui a observé la scène politique, vous êtes une analyste et une chroniqueuse, mais est-ce que vous croyez que le Canada anglais a oublié que les Français étaient également, à leur égalité, fondateurs de ce pays?
Je pense que oui. C'est pas nécessairement juste, c'est pas seulement un oubli, mais c'est quelque chose qui n'est peut-être pas assez avancé. Je suis pas dans les écoles pour savoir qu'est-ce qu'ils apprennent de l'histoire. Je sais que ma fille, par exemple, ici en Ontario, ce qu'elle apprend depuis des années, c'est l'histoire des Autochtones. C'est juste maintenant, en septième année, que le curriculum public en Ontario dicte que les enfants doivent apprendre l'histoire du développement politique du pays, je pense, de 1700-quelques à 1800-quelques. C'est l'espace où ça a été formé le Canada, jusqu'à la Confédération. Alors, littéralement, elle n'a pas eu cette éducation. Et je ne sais pas, je vais m'intéresser à voir comment c'est présenté, justement parce que cette notion de deux peuples fondateurs, c'est une ancienne notion. Si on ne l'apprend pas, c'est pas juste qu'on l'oublie, c'est qu'on ne le connaît pas. Et c'est là, je pense, que le gouvernement fédéral, le problème, c'est l'éducation, c'est provincial,
mais peut
se prononcer d'une façon pas imposée, mais tu sais, ce que Mélanie Joly dit, ça commence vraiment avec cette éducation-là. Alors,
ce qui me fascine, parce qu'on doit terminer là-dessus, c'est que ça fait 50 ans que le papa de l'autre a fait du Canada les langues officielles, le français et l'anglais, et le fils semble tarder à mettre la règle de papa en application.
Oui, je pense que ce que les gens ont oublié, c'est tout le combat du Québec pour s'affirmer en français. Cette génération présente, et M. Trudeau était à Brébeuf avec moi, je me rappelle, il connaît toute la même histoire que moi je connais, mais je pense la génération maintenant, la plus nouvelle génération qui vote, les millénaires, ça, ils n'ont pas de mémoire de ça. On ne dessert pas la clientèle qui a la mémoire de ça, de ce combat. Et à cause de ça, on n'apprécie pas.
Il n'y a pas l'importance. Il n'y a pas l'importance à y apporter ou d'intérêt à mettre de l'énergie là-dedans. Tasha Carradine, merci beaucoup. Vous êtes analyste politique et conseillère chez Navigator. Merci beaucoup.
plaisir. Bye-bye.
Au revoir. On s'arrête pour une pause.